pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, la crise sanitaire du Covid-19 a confiné près de la moitié de l'humanité et révélé le fonctionnement de nos sociétés. Par exemple, l'arrêt des transports dans de nombreuses villes du monde a mis à jour leurs nuisances. Bruit, pollution, promiscuité. Avec le déconfinement, métro, bus, car, taxi, moto reprennent doucement. Mais pour limiter la propagation du virus et éviter un report massif sur la voiture individuelle, les villes et les usagers innovent. La mobilité du monde d'après sera-t-elle moins polluante ? C'est un vrai casse-tête pour les mégalopoles en pleine expansion, construites autour du moteur à combustion. Alors comment en sommes-nous arrivés là ? Faut-il repenser la ville ou réinventer nos modes de déplacement ? Du boom du vélo dans les capitales occidentales à celui du taxi-moto dans les villes africaines, petit tour d'horizon des solutions.
C'est pas du vent. Sur RFI.
Prendre son vélo plutôt que le métro. Avec le déconfinement, Étienne a décidé de changer ses habitudes pour se rendre au travail. Il a investi il y a quelques jours dans ce deux roues.
Dès que les magasins ont rouvert, je me suis précipité pour aller en acheter un. Avec le coronavirus, le métro, ça me paraissait pas être une super bonne idée. Et puis en plus, il faisait beau.
Ils sont nombreux depuis le déconfinement à avoir délaissé rames de métro et bus pour s'essayer au vélo. Les pistes cyclables connaissent des records d'affluence dans la capitale.
On est à 250 000 ou 300 000 cyclistes jour, aujourd'hui quotidien donc, dans Paris. Et ce sont des chiffres qui sont en constante augmentation.
Nous sommes ici rue de Rivoli, l'une des artères principales de la capitale. Et vous le voyez, les voies habituellement dédiées à la circulation des voitures ont été entièrement réservées au vélo.
Au total, près de 60 km de voies doivent ainsi être réaménagées d'ici l'été.
En ce moment, on multiplie par 3 les ventes de vélos. Je pense que ça va se poursuivre. On voit toutes les infrastructures dans Paris qui se mettent en place, encore plus pour le déconfinement. Donc oui, je pense que ça va perdurer.
C'est donc un véritable engouement pour le vélo qui doit vous faire plaisir. Frédéric Errand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes urbaniste et économiste, maître de conférences à l'Université de Lille 1, chercheur au Centre Lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques, et vous venez de publier « Le retour de la bicyclette, une histoire des déplacements urbains en Europe, de 1817 à 2050 aux éditions de La Découverte ». Alors cette crise sanitaire est, en période de déconfinement, un véritable tremplin pour le vélo dans de nombreux pays.
Oui, et ce n'est pas nouveau. En fait, il y a déjà eu de nombreuses crises qui ont révélé une des facettes du vélo. Je me suis amusé à écrire, il y a 2-3 semaines, un petit article sur le caractère extrêmement résilient du vélo, c'est-à-dire sa capacité, pour parler plus simplement, d'adaptation à toutes sortes de situations improbables. Le vélo, on l'a déjà utilisé massivement pendant la guerre de 14-18 aux Pays-Bas, tiens, voilà, qui était un pays qui n'était pas du tout en guerre à l'époque, qui était neutre. On l'a découvert aussi pendant la crise de 29. Les gens, dans les années 30, ont beaucoup utilisé le vélo parce que c'était finalement un mode assez peu cher et qui permettait une grande mobilité pour les ouvriers, les employés et même les paysans. Ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale, on l'a utilisé, par exemple, pour faire de la résistance, parce que le vélo, c'est un mode très discret. On l'a découvert pendant la crise pétrolière de 1974. Évidemment, là, on a découvert son côté très économe en énergie. Pendant les grèves des transports, c'est lui aussi qui, soudain, se révèle très intéressant. Et là, avec la crise sanitaire, nouvelle facette du vélo, improbable, que j'aurais pensé, c'est la fameuse distance sociale que permet le vélo par rapport au transport public, par exemple.
Oui, c'est vrai que là, il y a un engouement dans de nombreuses villes du monde. Par exemple, en Hongrie ou Budapest, la capitale se métamorphose littéralement aussi pour les cyclistes. C'est un reportage de Florence Labruyère, diffusé dans l'émission Accent d'Europe de RFI.
Les Budapestois le surnomment le Grand Boulevard. Cette grande artère en forme de demi-cercle est d'habitude encombrée par les bouchons. Et pour la première fois, les cyclistes n'ont plus besoin de slalomer entre les voitures. Depuis le 28 avril, ils roulent en toute sécurité sur une nouvelle piste cyclable. Zoltan est informaticien, il est ravi.
Moi je pense que c'est un effet positif de cette crise. Il y a plus de place pour les vélos et on est plus en sécurité. Je prends souvent le Grand Boulevard, c'est un axe qu'on ne peut pas éviter. C'est vraiment bien qu'il y ait une piste cyclable ici, ça change la vie. Et puis, ça ne demande pas de gros investissements.
Ce changement est d'abord dû à l'élection d'un nouveau maire écologiste en octobre dernier. L'objectif du nouvel édile, Gergely Kurácsony, est de faire de Budapest une ville plus verte et qui fait la part belle au vélo. Explication du maire adjoint, David Doros.
On voulait déjà transformer le réseau de transport en un système plus écologique, car le développement durable est au cœur de notre programme politique. Mais la crise du Covid nous a aussi poussé dans cette voie, au début de l'épidémie, quand on a vu que beaucoup d'habitants évitaient de prendre les transports en commun et choisissaient plutôt le vélo, on a décidé d'augmenter leur sécurité en installant de nouvelles pistes.
Outre le Grand Boulevard, d'autres avenues se sont enrichies d'une voie pour les vélos. En tout, une vingtaine de kilomètres supplémentaires sont en train de voir le jour. Le réseau cyclable, qui comptait 325 kilomètres jusqu'ici, approchera bientôt les 350 kilomètres. Pour le maire adjoint, David Doros, l'objectif est clair.
Actuellement, à Budapest, le vélo représente 2% des déplacements, mais après Prague et à Varsovie, 10% des trajets s'effectuent à bicyclette. Nous aimerions beaucoup nous approcher de ce chiffre.
Cela faisait des années que le club cycliste hongrois faisait du lobbying pour développer le réseau cyclable. Le porte-parole du club, Aaron Halas, est ravi.
C'est un très grand pas en avant. Le trafic automobile a diminué de moitié. La fréquentation des transports en commun a été divisée par 10. Si on augmente le nombre de voies cyclables, de plus en plus d'habitants auront envie de se mettre au vélo. Et tout ça va améliorer la qualité de l'air, y compris pour les piétons.
Pour l'instant, ces nouveaux couloirs pour les vélos sont temporaires. En septembre prochain, la ville décidera de la pérennisation de ces pistes cyclables.
Oui, il y a un effet Covid-19, Frédéric Errand. La question, c'est est-ce que cette crise sanitaire va réellement être un tremplin pour le vélo, puisque vous le disiez vous-même, il y a des périodes où le vélo est revenu en force, puis à chaque fois, il a été finalement remis à sa place par la voiture.
Pas tout à fait. En fait, il en reste toujours quelque chose. Chaque fois qu'un événement a permis au vélo de ressortir de la cave, il en reste quelque chose. Mais c'est vrai qu'il n'est pas sûr que la pratique sera durablement boostée. Ce sera le cas dans les pays où le retour du vélo est déjà effectif et déjà en cours, comme effectivement en Hongrie. La Hongrie, ce n'est pas n'importe quel pays, hein. C'est vraiment un pays déjà où il y a beaucoup d'usages du vélo. C'est comme aux Pays-Bas, ou presque, hein, pas loin. Alors, que Budapest se remette au vélo, oui, c'était déjà dans l'air du temps et ça va s'accélérer. Maintenant, dans des villes où le vélo est encore très, très peu utilisé, où la voiture ou les deux roues motorisées ont déjà toute leur place, c'est vrai que ça ne va pas être simple de faire du jour au lendemain une place au vélo, oui.
Alors là, on peut faire directement un pont avec les capitales africaines. Bonjour Pascal Pochet.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au laboratoire aménagement, économie, transport, spécialiste de la mobilité quotidienne dans les villes d'Afrique subsaharienne, où le vélo, on peut le dire clairement, n'a pas beaucoup de succès.
Oui, tout à fait. Il y a quelques exceptions. Alors, mes données se basent sur des enquêtes qu'on a menées depuis 25 ans à peu près sur l'Afrique de l'Ouest et un peu l'Afrique centrale. Donc, on n'a pas une vision complète, évidemment, du sous-continent. Mais clairement, on a vu qu'il y avait cette spécificité ouagalaise, hein, burkinabé, où là, le vélo garde une certaine place, hein, et a toujours été fortement implanté. On va retrouver des traces du vélo aussi au Mali, dans certaines zones sahéliennes. Mais globalement, le vélo, c'est un mode marginal. C'est un mode qui n'a pas tout à fait sa place sur la voirie, malheureusement. C'est-à-dire qu'on a peu de collectivités, peu d'États qui ont misé sur le vélo en Afrique subsaharienne. C'est dommage, puisque hormis dans les zones rurales, le vélo ne dépasse rarement 1 ou 2% de part de modal de déplacement. Donc, c'est faible. Pourquoi ? Parce que c'est dangereux. Hein. Il faut faire sa place sur la voirie. Souvent, les voiries sont un petit peu insuffisantes en termes de capacité. Donc, il faut se battre un peu. Et les usagers vulnérables, comme les cyclistes, sont souvent un petit peu mis sur le côté, voire risquent des accidents assez graves. Et puis, il y a aussi cette image un petit peu qui colle à la peau du vélo comme mode des campagnes, mode des populations défavorisées. Et donc, ce n'est pas forcément un objet de désir comme il est devenu quand même, on peut le dire, dans un certain nombre de villes du Nord. où le vélo est un mode très, très à la pointe, on va dire, des nouvelles tendances de mobilité.
Oui, mais si on pense comme frein à la chaleur ou aux difficultés de circulation, on peut dire que ce ne sont pas des freins en Asie, par exemple, où le vélo s'est énormément développé. Donc, ça serait quoi ? Ça serait plus culturel ?
Moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec l'aspect culturel, parce qu'on parle d'aspect culturel quand on ne sait plus expliquer par des aspects sociaux.
C'est vrai.
Je pense que, honnêtement, il y a effectivement des racines historiques. La colonisation n'a pas forcément aidé. C'est-à-dire qu'en phase de décolonisation, on a voulu sortir un petit peu des modes qu'on utilisait avant. On a vu apparaître des manufactures de motos, mobilettes françaises, hein, qui se sont implantées aussi en Afrique, où là, il y avait des perspectives de nouveaux marchés. Et puis, on a un peu oublié le vélo. Les pays qui fonctionnent bien en termes d'usage de la bicyclette et les villes sont des villes qui ont investi depuis un certain temps. Aux Pays-Bas, ça fait quand même une trentaine d'années, les années 70-80, qu'ils ont mis le paquet quand même sur aussi des infrastructures qui facilitent un petit peu l'usage du vélo. Quand tout est compliqué, quand en plus il fait chaud, qu'on risque de se faire voler son vélo quand même, etc., et qu'on prend des risques sur la route, il faut vraiment être motivé, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup d'atouts pour le vélo en Afrique. Ce n'est pas forcément très cher à l'usage, hein. C'est quand même un des meilleurs modes pour ça, c'est le meilleur marché. On peut faire des distances assez intéressantes dans des villes moyennes ou des grandes villes. On s'échappe un petit peu de la congestion quand même quand il y a des pistes cyclables. Or, on sait que dans un certain nombre de villes, il y a des gros soucis de congestion liés aux véhicules individuels, hein, à la voiture, et aussi à l'usage parfois un peu anarchique des transports en commun.
Mais le vélo a tout de même ses défenseurs, même sur le continent africain. Au Sénégal, par exemple, car comme dans de nombreuses villes, se déplacer à Dakar aux heures de pointe est souvent infernal. La capitale est bloquée par des embouteillages monstres. Résultat, perte de temps et pollution. Alors sur les réseaux sociaux, Sama Vélo, qui signifie mon vélo en Wolof, milite pour son développement. C'est un mouvement qui a été lancé par un jeune ingénieur qui se déplace quotidiennement à bicyclette, même si c'est parfois, comme vous le disiez, un parcours du combattant. C'est un reportage de Charlotte Hydrac.
Il est 17h, Baye Cherso a terminé sa journée de travail. Changement de tenue, t-shirt de sport, casque, lunettes de soleil, gants, c'est parti pour 7 km jusqu'à son domicile.
Donc faisable en 20-25 minutes sans forcer.
Sa monture, un VTC, un vélo tout chemin suédois d'occasion, acheté 130 000 francs CFA, environ 200 euros. Cet ingénieur mécanique de 29 ans a découvert le vélo comme moyen de transport lors de ses études en France, à Rennes, en Bretagne.
Le premier critère, c'était économique, c'était plus simple d'avoir un vélo au niveau financier. Et j'ai découvert en fait que le vélo permettait d'aller plus vite. Et petit à petit, j'ai trouvé quand même que derrière tout ça, il y a un aspect social qui est fort.
Assalamu alaikum tout le monde, comment allez-vous ?
Mais faire du vélo à Dakar, c'est une autre histoire. Dans des vidéos diffusées sur Internet, Baye Cherso filme ses trajets via une caméra fixée sur son casque. Nid de poule, camion sur les bas-côtés, flaque de boue durant la saison des pluies. Il faut être motivé.
Ici à Dakar, il faut savoir développer un peu des automatismes, des techniques, prendre les ruelles les moins empruntées, passer par les quartiers au lieu d'emprunter les axes principaux. Après, c'est vrai que des fois, quand on roule derrière une vieille carapite ou un vieux tata, c'est compliqué.
Compliqué et décourageant pour ces Dakarois, le vélo n'est pas adapté à la capitale sénégalaise.
Entre beaucoup de véhicules qui émettent des gaz carboniques, la chaleur et tout cela, c'est étouffant.
C'est pas le confort en fait, parce qu'on peut pas se mettre en veste et pédaler en vélo.
Je reste réticent parce que quand je vois le nombre de voitures qu'il y a à Dakar, je me dis que le vélo c'est quand même un peu risqué.
Baye Cherso, lui, n'a jamais eu d'accident à Dakar. Avec son mouvement Sama Vélo, il veut sensibiliser ses compatriotes et les autorités.
Ici au Sénégal, quand on parle à une personne du vélo, il pense forcément à faire du sport. Sama Vélo, c'est essayer de vulgariser cet esprit de mobilité urbaine auprès aussi des autorités. Il faut mettre en place des pistes cyclables. À Dakar, je trouve qu'il y a même beaucoup d'espace. C'est mal utilisé, il y a des vendeurs partout, des voitures qui sont stationnées. Il faut juste prendre ces décisions et les assumer en fait.
En attendant des pistes cyclables, ce vélo-taffeur, comme il se définit, a ses petites satisfactions quand il dépasse les files de voitures bloquées dans les bouchons. Les automobilistes, ils les appellent...
Bagnolards, les gens qui ont des bagnoles.
Charlotte Drac, Dakar. Bon, je vous dis bonne route.
Merci beaucoup.
RFI.
Et voilà, vélo taffeur contre bagnolard. Vous pouvez en savoir plus en allant sur la page Facebook Sama Vélo. Pascal Pochet, comment est-ce que vous réagissez à ce reportage ?
Oui, on voit bien toutes les difficultés qu'il y a et puis aussi les vrais atouts du vélo. Hein. J'ai noté un petit chiffre, un parcours de 7 km en 20-25 minutes. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de transports en commun sur Dakar qui permettent de faire ça aux heures de pointe. On est sur des vitesses de 5 à 10 km heure hein, en heure de pointe. Pour les transports en commun dakarois, quel que soit le type de transport qu'on emprunte pratiquement. Par contre, il est effectivement dangereux. Il y a aussi cette pollution qui ne va pas rendre le trajet très agréable. Mais voilà, moi je pense qu'il faut donner de la voix à ces associations qui représentent des modes qui ne pèsent pas forcément très lourd pour l'instant au niveau économique en Afrique, mais qui pourraient d'ailleurs devenir un peu plus intéressants économiquement aussi. On n'a pas de grands groupes pour booster la pratique du vélo. On n'a pas de solution technique qui rapporte beaucoup à vendre, etc. C'est aussi ça qu'il y a derrière. Hein. Donc, tous les modes actifs et les modes comme le vélo et la marche à pied, parce que je pense qu'il y a une vraie question sur la marche à pied dans les villes africaines, peut-être qu'on aura l'occasion d'y venir. C'est important parce que ça rééquilibre un petit peu le rapport de force sur la scène publique.
Oui, parce que dans les capitales africaines, la mobilité quotidienne, c'est que, un, la marche.
Oui, en nombre de déplacements. Alors, ce n'est pas forcément des déplacements très longs. Hein. C'est souvent dans le quartier. On ne peut pas forcément comparer tous les déplacements entre eux. Mais oui, c'est 50 à 70% selon les villes, la marche à pied. Quand on est à peu près à 30% en France, sur le même type de mesure. Voilà, donc ça donne un peu une idée. Et derrière ça, c'est les transports en commun, numéro 2, on va dire, avec une vingtaine de pourcents. Et puis, il reste les modes individuels, dont la voiture, le deux-roues moteur, le vélo, les charrettes à Dakar ou autre. Enfin, mais globalement, on est quand même sur, effectivement, une prééminence de la marche à pied, à parfois des déplacements assez longs pour aller au travail, en portant des charges lourdes. Donc, on a vraiment une préoccupation sur l'usage de la marche qui coûte rien, mais qui peut être éprouvant, fatigant, hein, quand il fait très chaud, dans des rues sablonneuses, quand tous les trottoirs sont pris, comme il l'a dit aussi hein, notre collègue qui fait du vélo à Dakar. Hein, on est sur des modes qui ont à faire leur place.
Puis avec des villes qui s'étalent, évidemment que la marche, c'est extrêmement discriminant. Frédéric Errand, comment est-ce que vous voyez l'avenir du vélo en Afrique, vous qui avez écrit un livre de prospective, puisque votre livre va jusqu'en 2050?
Eh bien, je vais peut-être vous étonner, mais ce que décrit ce Dakarois ressemble très fortement à ce que connaissaient les Parisiens dans les années 70. Le vélo était extrêmement marginal à cette époque. On estime qu'il représentait 0,2% de part modale, soit quasiment rien, quoi. Il n'y avait pratiquement pas de cyclistes visibles dans les rues de Paris. Et tout ce qu'a décrit notre ami Dakarois, on aurait pu le dire dans les années 70. Et donc, j'ai fait partie des gens qui disaient il y a 20 ans qu'il serait difficile que le vélo redevienne important, un mode de déplacement important et visible à Paris. Eh bien, je me suis trompé. Je me suis trompé. Aujourd'hui, on est à 4% de part modale. Mais en réalité, ça, c'est tout mode confondu, y compris le métro. Si on compare le vélo par rapport au mode de déplacement sur la chaussée, il représente déjà plus de 15% des déplacements sur la chaussée. Et donc, c'est un message que je voudrais donner d'espoir, hein, que je voudrais donner aux grandes villes africaines. Rassurez-vous, peut-être que dans 20 ans, je pense dans moins de temps que pour nous, et ce n'est pas du tout impossible que dans 20 ans, 30 ans, il y ait beaucoup de cyclistes.
Dans les capitales africaines, en attendant le vélo, l'un des transports les plus utilisés, c'est le taxi-moto. D'où vient cette pratique et quelles sont les conséquences sanitaires et environnementales? Nous irons à Lomé et à Ouagadougou, mais tout d'abord une évasion musicale avec l'un des pionniers de la fierté noire aux États-Unis, Curtis Mayfield, Move On Up.
Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complications.
Just move on up. For peace you can find. Into the steeple of beautiful people where there's only one kind. So hush now, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Move on up and keep on wishing. Remember your dream is your only scheme, so keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, you must be forsaken, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it.
L'Américain Curtis Mayfield dans C'est pas du vent sur RFI. Nous parlons des enjeux de la mobilité quotidienne aujourd'hui avec nos deux invités, Frédéric Errand, urbaniste et économiste, qui vient de publier Le retour de la bicyclette, une histoire des déplacements urbains en Europe de 1817 à 2050 aux éditions de La Découverte, et Pascal Pochet, chercheur au laboratoire Aménagement, Économie, Transport, spécialiste de la mobilité quotidienne dans les villes d'Afrique subsaharienne. Des villes où depuis les années 90, le taxi-moto s'est imposé comme l'un des moyens de transport les plus fluides. On pense évidemment aux Émidjans à Cotonou, mais à Lomé aussi, où ces 2 millions d'habitants sont confrontés à d'importants problèmes de transports urbains, amplifiés par l'étalement de la ville avec la formation d'importantes zones périurbaines où prédomine l'habitat informel. La solution serait donc le taxi-moto. Bonjour à Sogba Gezeré.
Oui, bonjour madame Cécile.
Vous êtes le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de Kara, qui est la deuxième université située au nord du Togo. Vous êtes maître de conférences en géographie urbaine et directeur du laboratoire de recherche PREDES, qui signifie pôle de recherche et d'expertise sur la dynamique des espaces et des sociétés. Vous avez fait votre thèse justement sur les taxis-motos. C'est le mode de transport le plus fluide hein, à Lomé, comme dans de nombreuses villes africaines. Comment sont apparus les taxis-motos à Lomé ?
Les taxis-motos sont apparus, comme je le disais, en 1992 et cette année correspond à la crise sociopolitique que le pays a connue. Comme on le dit très souvent, les taxis-motos sont apparus avec la crise urbaine. Donc, quand je parle de crise sociopolitique, c'est une année où le Togo a connu des mouvements sociopolitiques. Et donc, dans ce contexte, les conducteurs de taxis collectifs, de monibus, ont fait les grèves. Et comme il n'y avait pas de possibilité, il n'y a pas de moyens, ceux qui avaient les motos personnelles les ont utilisées pour régler un problème d'appoint, soit avoir quelques sous pour la survie. Et c'est comme ça, petit à petit, les taxis-motos ont fini par devenir le moyen de déplacement sur le modèle qui existait au Bénin, parce que c'est au Bénin que ça a été importé. Le phénomène existait au Bénin depuis les années 80. Au début, ça a été une activité qu'on pensait provisoire. Mais à la fin de la crise sociopolitique, les taxis-motos ont compris que le phénomène était très juteux. Et donc, le phénomène a perduré au point où l'autorité était obligée à un moment donné de mettre en place un cadre réglementaire pour les gérer.
Alors, aujourd'hui, est-ce que c'est un mode de transport accessible à tous financièrement ?
Oui et non. La réponse doit être mitigée parce que oui, c'est un mode de transport accessible à tout le monde. Accessible parce que les gens n'ont pas de choix. Il n'y a pas d'autres alternatives. Nous n'avons pas un transport public très efficace. Du fait du parc très limité, du parc vieillissant, et à côté, les taxis collectifs n'arrivent pas aussi à couvrir tout l'espace périphérique. Ce qui fait que les usagers ont l'obligation de prendre les taxis moto, même si parfois, ils se révèlent être un peu plus chers sur les longues distances. C'est un peu cher, mais c'est accessible puisque vous pouvez négocier facilement le prix auquel vous voulez vous faire transporter.
Comment est-ce que vous voyez l'évolution des transports à Lomé rapidement ?
ça va être vraiment grandissant. Il faudra faire l'effort de trouver une stratégie, parce que c'est ça qui manque. Il faut trouver une stratégie de réglementation, une stratégie de gestion de ce transport-là pour le moderniser et pour le rendre plus utile. Il faut professionnaliser les conducteurs, comme ça se fait ailleurs. Quand vous regardez un peu dans les pays anglophones, c'est plus ou moins bien organisé. Je peux prendre l'exemple du Kenya et surtout du Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays anglophone qui a réussi à maîtriser ce secteur au point où si on n'est pas, on n'a pas une licence, on ne peut pas exploiter une moto. Donc voilà, c'est une question de volonté politique. Il faudra aller vers là pour trouver une formule pour les gérer de façon efficace, pour qu'ils puissent être des entrepreneurs et qui puissent être complémentaires aux transports publics qui vont être développés bientôt.
Merci à Sogba Gezere.
Merci beaucoup.
Le problème, c'est que ces taxis-motos qui se sont imposés dans presque toutes les capitales africaines ont d'importantes conséquences sanitaires et environnementales, comme le démontre ce reportage de Yaya Boudani à Ouagadougou.
Au Burkina Faso, près de 3 millions de motocyclettes sont en circulation, selon les chiffres fournis par le Centre de contrôle des véhicules automobiles. Des motocyclettes dont l'entretien se limite au changement de l'huile du moteur, selon certains propriétaires.
Bon, c'est changer l'huile et puis faire le vidange seulement. Bon, c'est simplement comme ça. Chaque un mois comme ça. Bon, mais si je roule trop, bon, 2 semaines.
Généralement, tous les 3 mois, voilà, je fais la vidange. Voilà, bon, la révision peut atteindre voilà, les 6 mois. Dans l'année, 2 fois, je fais la révision.
Pourtant, depuis 2012, une loi oblige tous les véhicules à faire leur visite technique, mais les centres de contrôle n'enregistrent qu'un maximum de 10 motocyclettes par mois. Idrissa Kwanda est le directeur du contrôle technique au Centre de contrôle des véhicules automobiles à Ouagadougou.
En réalité, force est de reconnaître que la partie motocycle se présente très rarement. Vous parlez de motocycle. Ceux-là que nous recevons régulièrement sont les véhicules automobiles. Et au niveau de la pollution et les nuisances, ils représentent en tout cas plus de 20% des défectuosités et constituent la première cause d'échec à la visite technique. Nuisances ici, ça peut être le bruit, les fuites au niveau de l'échappement, les fuites d'huile, tout ça constitue pour nous des nuisances.
Conséquence, ces millions de motocyclettes rejettent dans l'atmosphère des gaz qui augmentent l'effet de serre, contribuant ainsi au réchauffement climatique, selon Lucienne Sanluidi, technicienne d'État du génie civil et ingénieure en management qualité en sécurité et environnement.
Sur le plan sanitaire, les engins à deux roues émettent dans l'environnement des monoxydes de carbone qui résultent d'une combustion incomplète du carburant. Et ces monoxydes de carbone sont toxiques pour la santé. Ça peut entraîner des migraines, des vertiges et ça peut aggraver les problèmes cardiovasculaires. On a aussi des hydrocarbures qui sont rejetés, qui sont issus de l'évaporation de l'essence et aussi d'une combustion incomplète de l'essence et ils entraînent des difficultés respiratoires. Nous avons enfin les monoxydes d'azote qui se transforment lors de la combustion. En présence de l'oxygène, ça crée des dioxydes d'azote et cela provoque des maladies respiratoires et l'irritation des yeux. Parlant des nuisances sonores, on dit que la pollution sonore s'attaque au cerveau et peut perturber la phase de sommeil. Et sur le long terme, ça peut engendrer une confusion mentale et aussi des stress corporels.
De nombreux Burkinabés utilisent de plus en plus les motocyclettes avec des moteurs à 4 temps. Ce type de moteur, selon le directeur technique du Centre de contrôle des véhicules automobiles, laisse échapper moins de fumée, surtout lorsque l'entretien est bien suivi.
Par le mode de combustion, on se rend compte qu'il y a une amélioration par rapport à la décennie passée. Les motos fonctionnant à 2 temps, la plupart des motos aujourd'hui sont des motos qui fonctionnent à 4 temps, c'est-à-dire admission, compression, explosion, échappement. Ce qui fait que de nos jours, quand vous arrivez au niveau des feux tricolores, on constate en tout cas moins de fumée par rapport à de cela 10 ans.
Sur le plan sécuritaire, les motocyclettes sont impliquées dans 96% des accidents de la circulation dans la capitale. Sur environ 7169 accidents répertoriés en 2019 par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, les engins à deux roues sont impliqués dans 6998 cas selon Adama Pamtaba, le responsable de la communication à la police municipale de Ouagadougou.
Les accidents entre deux roues, ça veut dire impliquant des usagers qui sont sur deux roues, donc deux roues, on est à 2214 accidents. Alors deux roues contre quatre roues, on est à 1813 accidents. Alors deux roues contre animaux, on est à 32 accidents. Deux roues contre objets fixes, on est à 43 accidents. Deux roues contre charrette, on est à 33 accidents. Les chutes libres, on est à 1998 accidents. Et deux roues contre train, on est à un cas. Deux roues contre piéton, on est à 466 accidents. Deux roues contre tricycle, on est à 156 accidents. Et quatre roues contre deux roues contre tricycle, on est à 16 cas.
Et pour minimiser l'effet néfaste de l'utilisation des motocyclettes dans la capitale burkinabé, Lucienne Sanvidi, technicienne d'État du génie sanitaire, suggère le développement du transport en commun.
Il faut que nous arrivions à intégrer le transport en commun dans notre habitude. Cela va contribuer à réduire le nombre d'engins à deux roues et même les véhicules à quatre roues qui circulent dans la ville de Ouagadougou. Ceux aussi qui ont les engins à deux roues peuvent adopter des comportements qui peuvent contribuer à réduire le rejet des polluants. Notamment, par exemple, quand on veut s'arrêter plus d'une minute, on peut couper le moteur. Et pourquoi pas, dans l'avenir, songer à utiliser les motos écologiques qui rejettent moins, voire pas, de polluants dans l'environnement.
Et pour réduire les risques d'accidents de la circulation, les spécialistes proposent un contrôle strict du permis de conduire des motocyclistes et la visite technique de toutes ces motocyclettes. Yaya Boudani, Ouagadougou, RFI.
Alors heureusement, on ne dénombre qu'un seul accident de roue-train. Pascal Pochet, le taxi-moto, on le comprend bien hein, à travers ce reportage et le témoignage tout à l'heure au Togo. En fait, il s'est mis dans les failles de l'offre de transport dans les villes africaines.
Oui, c'est exactement ça. C'est en fait un mode de transport qui s'est développé en temps de crise. C'est-à-dire qu'on a effectivement la crise sociopolitique dans un certain nombre de pays qui ont donné lieu à des grèves, donc à une absence de transport en commun pendant un certain temps, donc on a vu apparaître le mototaxi dans ces cas-là, mais c'est aussi une crise un petit peu de la construction et de l'entretien de la voirie, c'est-à-dire qu'à deux roues, on passe plus facilement les ornières, on évite les flaques, on évite les trous, etc. On peut desservir des banlieues un petit peu lointaines qui sont difficiles à desservir par des véhicules à quatre roues ou des bus, hein. Donc il y a clairement une plasticité du mode qui est assez impressionnante, assez fascinante à observer. On l'avait fait d'ailleurs avec Assob Bagezere sur Lomé, avec un effet aussi qu'il faut mentionner, c'est l'importation massive de véhicules chinois à partir du tournant des années 2000, qui ont donné une nouvelle rentabilité à ce mode de transport, puisqu'en fait, c'était des motos qui arrivaient à moitié prix par rapport aux motos indonésiennes ou aux motos japonaises qui étaient importées précédemment. Donc, on a une activité presque spéculative pour un certain nombre de personnes qui veulent gagner un peu d'argent, donc qui achètent une moto et qui la mettent à exploiter à un conducteur. Et les conditions des contrats sont telles que souvent on voit effectivement des pratiques assez dangereuses, c'est-à-dire qu'il faut rouler beaucoup pour gagner sa vie quand on est conducteur de mototaxi et qu'on ne possède pas son véhicule, c'est quand même une moitié ou 40% des conducteurs qui sont comme ça sur Lomé, hein. Donc on travaille 10-12 heures par jour. Il y a beaucoup de maladies professionnelles, il y a la pollution, mais il y a la fatigue, mal de dos, enfin, problème de sommeil, problème respiratoire. Tout ce qui a été dit, effectivement, est ressort très, très nettement des enquêtes qu'on avait pu faire.
Frédéric Errand, la France aussi hein, a misé sur les deux roues à une époque. Donc, le vrai sujet, Pascal Pochet l'abordait, c'est comment élaborer une offre de mobilité qui finalement corresponde aux besoins des usagers et à l'enjeu et aux enjeux du territoire.
Oui, et effectivement, dans le reportage, les deux reportages que nous venons d'entendre, il y a des points communs avec ce qu'a connu la France par le passé et encore aujourd'hui. J'en ai donné quelques exemples. L'usage du vélo était très développé dans les années 30 en France, autant qu'en Allemagne, par exemple. Vraiment, on faisait tout à vélo et on se rendait au travail à vélo, notamment. Il y avait des embouteillages de cyclistes devant les usines. Et puis tout cela s'est effondré dans les années 50-60 sous la pression de l'avènement du deux-roues motorisé. Nous avons connu en France une époque où le deux-roues motorisé était très utilisé. La mobilette, le Solex, vous voyez, le Peugeot. La France en a produit énormément. Tenez-vous bien,
C'était même le premier producteur mondial de deux roues motorisées entre 1954 et 1960. Et ces deux roues motorisées ont provoqué exactement les mêmes problèmes que connaissent les villes africaines aujourd'hui, c'est-à-dire de très nombreux accidents. En 1960, il y a eu plus de morts en France en deux roues motorisées qu'en voiture, par exemple. Et il y a eu aussi beaucoup de pollution, même si, bien sûr, le contexte n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. On n'avait pas ce problème de réchauffement climatique encore. Donc aujourd'hui, le problème de la pollution devient plus aigu. Et puis, ces deux roues motorisées ont régressé à cause de leur dangerosité. Et ont été remplacées, il faut bien le dire aussi, par beaucoup de voitures qui ont causé d'autres problèmes.
Avec notamment les fameuses coupures urbaines. Hein.
Voilà. Alors, à Dakar, on a l'autoroute qui vient d'être construite, là, qui est une coupure majeure que certains collègues africains ont étudiée. Et on a connu, nous, les mêmes problèmes de coupures par les infrastructures. Elles existent encore. On est encore en train d'essayer de les réduire, c'est-à-dire de construire des passerelles, des souterrains pour réduire ces coupures. Un mot quand même aussi sur le revêtement. Alors, c'est vrai, comme l'a dit Pascal Pochet, le deux roues motorisé permet vraiment de passer partout. Bien, figurez-vous que c'était le même problème en France au début du XXe siècle. On avait des routes très poussiéreuses et il y avait même une ligue contre la poussière, une sorte d'association, vous voyez, qui disait « c'est un scandale, nos routes sont poussiéreuses, il faut absolument les goudronner ». Je pense que vous voyez, les problèmes n'ont pas tellement changé aujourd'hui. C'est toujours la même question. Quant aux solutions, alors c'est vrai que l'analyse a été très bien faite là, de toute la pollution que génèrent ces deux roues motorisées. C'est dramatique. Hein. J'observe qu'en Chine, alors c'est une dictature hein, la Chine, mais en 2009, le gouvernement a décidé d'interdire purement et simplement les deux roues motorisées thermiques dans les villes chinoises, dans le centre de certaines villes chinoises, Shanghai, Pékin, etc., et de les remplacer par des deux roues électriques. Et puis, la mesure s'est finalement assez bien passée, et aujourd'hui, vous avez 200 villes, pas moins, dont le centre-ville est interdit aux deux roues motorisées thermiques, et autorisé uniquement aux deux roues électriques. Je pense qu'un jour, l'Afrique viendra à ce genre de solution, peut-être Paris avant, parce qu'on y songe déjà, Paris, hein, à faire cela. Encore un mot sur l'exploitation des mototaxis par des sociétés sans scrupules. Bon, on a le même problème en France hein, avec les livreurs Uber, soi-disant à vélo. On nous dit qu'ils utilisent des vélos, mais en réalité, comme c'est bien plus rapide, le deux roues motorisé, ces livreurs sont deux roues motorisés et malheureusement prennent d'énormes risques pour exactement la même raison, c'est-à-dire essayer d'en vivre alors qu'on est contraint à des tout petits salaires.
Le vrai sujet, c'est comment élaborer une offre de mobilité qui corresponde aux besoins des usagers et aux contraintes du territoire. On en parle avec vous dans un instant.
Of cause harm to the planet. Don't you wanna take a joyride on my tandem? Huffy on a huffy, don't I look so handsome? Bikes, suffice, they so nice, they priceless. Working on my calves, the triceps, the biceps. Bike past the gas, stop the traffic lights. I get around, round without a driver's license. Hello, you walking? Farewell, I'm hopping. And I'm whipping through the city with the 40.
Willie and a 50 party popping on my Willie.
My mom tells me I should stop.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous parlons des enjeux de la mobilité quotidienne aujourd'hui avec nos deux invités. Et l'un des grands défis de la mobilité, c'est comment satisfaire les besoins essentiels des habitants à un coût environnemental moindre. Et depuis quelques années, eh bien, il y a des fausses bonnes idées qui émergent. L'espace de plus en plus restreint pour la voiture en ville, le désamour pour les transports publics et les évolutions technologiques ont entraîné l'apparition d'un nouveau mode de transport, les trottinettes électriques. Venues des États-Unis, elles sont désormais des milliers à envahir les trottoirs parisiens et les pistes cyclables. Les trottinettes électriques seraient donc une fausse bonne idée. Avant d'entendre l'avis de nos invités, je vous propose d'écouter ce reportage.
Sur les quais de la Seine, le butin d'une pêche surprenante, des trottinettes électriques.
Vous pouvez voir ici plein d'objets qui ont été repêchés de la Seine. Donc ils étaient encore dans l'eau il y a quelques jours.
Dans l'état actuel des choses, c'est une fausse bonne idée de croire que parce qu'on se trimballe en trottinette, on ne pollue pas. Elisabeth Borne, la ministre des Transports, elle dit une trottinette ne pollue pas. Qu'une ministre dise ça, c'est complètement hallucinant. C'est-à-dire, elle est dans le leurre.
En l'espace d'un an, à Paris, le nombre de blessés ou de tués en scooter et à trottinette a augmenté de 19%. Les trottinettes en libre-service payant obstruent les rues de la ville et rendent le passage plus pénible pour toutes et tous. Les enfants, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite.
Des trottinettes dans la Seine, à Paris, mais aussi à Lyon, dans le Rhône, et même au fond du Vieux-Port, à Marseille. À l'intérieur des trottinettes, des batteries au lithium qui contiennent des métaux lourds. Une seule batterie peut contaminer 10 millions de litres d'eau.
Donc le bureau d'études Arcadis a calculé toute cette pollution. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, une trottinette électrique pollue à peu près autant que 3 passagers dans une voiture. Voilà.
Voilà, alors Frédéric Errand, est-ce que les trottinettes électriques qui ont envahi de nombreuses villes occidentales seraient une fausse bonne idée ?
Ah oui, certainement. D'abord, il faut savoir qu'elles sont déjà en train de refluer. C'est-à-dire que ça a été une mode qui, à mon avis, ne va pas durer. C'est que c'est un mode de déplacement, d'abord, peu confortable. On est debout, on est très secoué parce que les roues sont toutes petites, mais c'est aussi un mode dangereux. Parce que, un peu pour la même raison, quand on a des toutes petites roues, un simple trou dans la chaussée, et on bascule vers l'avant. Je connais, hélas, des gens qui se sont blessés durement de cette façon. Et puis, c'est vrai, troisième raison, c'est que l'envahissement des espaces publics, on a découvert que toutes ces trottinettes encombrent les chaussées. Une fois de plus, en Chine, on n'y est pas allé par quatre chemins. Et du jour au lendemain, les grandes villes chinoises ont interdit tout simplement ces trottinettes parce qu'elles étaient dangereuses. Alors, il en restera un peu quelque chose. Ça peut être intéressant quand même pour le rabattement sur les transports publics. Ça peut être une solution intéressante qui évite d'utiliser une voiture pour aller à la station ou un vélo dont on ne sait pas trop si on va pouvoir le garder, c'est-à-dire que si on pourra éviter de se le faire voler. La trottinette, on peut l'embarquer dans le transport public. Donc voilà, ça peut avoir cet intérêt, mais il n'est quand même pas très important, quoi.
Alors, en guise de conclusion, est-ce que vous pensez que cette crise sanitaire va modifier l'offre de transport à grande échelle, Pascal Pochet ?
Ce que nous montre la crise, notamment sur l'Afrique, c'est le besoin essentiel qu'on a à se déplacer. Hein. Regardez tous les débats autour du basculement dans la pauvreté d'une partie importante de l'humanité, du fait du confinement. Hein. Donc, quand on est dans la activité de vente, quand on fait du service, de l'artisanat, il faut aller à la rencontre du client, donc il faut rencontrer des gens. Et il faut jamais oublier que la mobilité, c'est ça, c'est l'accès, c'est ce qui est intéressant derrière. Et ce qui compte, c'est d'arriver à favoriser toutes ces interactions sociales, économiques, aux meilleures conditions environnementales, tout simplement. Il n'y a pas forcément une recette unique partout, il n'y a pas forcément... Certes, il y a des leçons à retenir du passé, certes, il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter, mais c'est aussi à chaque ville, finalement, de trouver un peu ses solution, avec toujours en ligne de mire cette idée qu'il faut effectivement, la ville c'est ça, c'est la proximité organisée, c'est la mobilité, voilà, c'est deux choses qui font l'essence même d'une ville, que ce soit au nord ou au sud. Et l'idée c'est effectivement d'utiliser au mieux les capacités des différents modes, et puis aussi d'avoir des démarches moins cloisonnées, c'est-à-dire qu'on pense souvent transport sans penser urbanisme, on pense activité économique, une zone d'activité sans penser logement, etc. Et il y a vraiment à penser en fait des politiques urbaines qui soient vraiment intégrées, coordonnées entre transport et urbanisme. Moi, me semble-t-il que c'est aussi un élément très très fort pour favoriser les interactions sans multiplier les kilomètres à parcourir. Et je crois que la clé, elle est un peu là autour des notions de ville compacte, ville résiliente aussi. Mais voilà, c'est un petit peu tous ces aspects-là qui me semblent important à développer.
Frédéric Héran.
J'ajouterais juste ce qui serait important, et c'est au nord comme au sud essentiel aujourd'hui, c'est de changer la hiérarchie des modes de déplacement. Au nord comme au sud, on a pensé pendant un moment que la motorisation, ça allait être quand même extraordinaire, ça allait libérer les gens de la fatigue, de la marche et du pédalage. Et c'est vrai que ça joue ce rôle. Mais ça a aussi plein de désavantages, ça crée plein de nuisances, comme on l'a bien expliqué. Et donc, il faut revenir à une réflexion fondamentale. Quel est le mode de déplacement qui est le moins producteur de nuisances, le plus convivial, le plus démocratique? Eh bien, évidemment, c'est la marche. C'est donc la marche qu'il faudrait mettre en avant, réhabiliter, et dire que voilà, toute la ville devrait être organisée d'abord autour du piéton. Un problème très compliqué dans les grandes villes africaines, parce que ces trottoirs sont accaparés par le commerce informel. Et puis ensuite vient le vélo, parce que c'est le mode qui vient après la marche, donc pour toutes ses qualités, le transport public, dans toutes ses formes, la voiture et le deux-roues motorisé. Le deux-roues motorisé, je ne le mets pas bien haut, hein, vous voyez. Et il faudra bien lui trouver une place différente, et je crois qu'au moins une solution intermédiaire, c'est celle que j'ai évoquée, c'est-à-dire le rendre électrique, obligatoirement électrique, c'est peut-être une solution, un moindre mal. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my
bicycle. Eh bien voilà, la hiérarchie est établie. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour sa réalisation et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Vous pouvez continuer à échanger avec nous sur les réseaux sociaux où vous retrouverez en bonus des vidéos de nos invités. Pour bien comprendre ce qui se joue autour de cette crise sanitaire que nous avons traversée et que nous continuons à subir, hein, vous pouvez podcaster nos émissions et partagez vos réactions. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine. Même planète, même heure.